Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec le titre. Le président Joko Widodo veut la réforme juridique et plus renforcée. Le développement de l'art devient l'objet du ministère de l'Éducation et de la Culture en 2017. Plus de 400 artistes indonésiens seront impliqués dans le festival Europalia. Selon Pramono Anung, tolérance est absolue. La Palestine demande le soutien de l'Indonésie à la conférence de Paris. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo rappelle son personnel à redoubler d'efforts de la réforme juridique de la première étape, notamment en termes de lutte contre l'extorsion illégale dans les services publics en Indonésie. Il est destiné à améliorer la compétitivité indonésienne face à la concurrence mondiale. Ceci a été déclaré dans l'ouverture d'une réunion à huis clos pour discuter des efforts pour réformer l'application de la loi le mardi au Palais d'État, Jakarta. La réforme juridique doit également être accompagnée d'une réforme systémique et une entrée pour la création de meilleurs services publics. Le président a également confirmé que les efforts de réforme juridique devrait également se concentrer sur la réglementation de la législation. Je voudrais réitérer que les réformes juridiques non seulement touchent le côté aval associé aux services publics, mais aussi en amont, à savoir l'amélioration des aspects réglementaires, l'amélioration des aspects de la procédure, et pour cela, je demande que la disposition de la réglementation et aussi une priorité dans la loi de réforme cette fois. Le président Joko Widodo a aussi déclaré que la structuration de la législation doit être faite si on trouve une législation chevauchement. Il est destiné à accélérer le processus de service et améliorer la compétitivité de l'Indonésie face à la concurrence mondiale. Il a également rappelé à son personnel de se concentrer sur le développement en 2017 pour éliminer l'inégalité sociale et l'inégalité de la justice dans la communauté. En 2017, la Direction générale de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture mettra l'accent sur le développement de l'art. Le directeur général de la culture, Hilmar Farid, a déclaré en plus des programmes réguliers comme la préservation du patrimoine culturel, qui est différente en 2017 et dans le domaine de l'art. Lundi, le 16 janvier à Jakarta, Hilmar Farid a expliqué dans le domaine de l'art, le ministère se concentrera à impliquer l'unité éducative dans le programme de la Direction générale de la culture. Le programme des arts couvre un programme de seniman masuk sekolah ou des artistes enseignent à l'école et de la musique basée sur l'éducation du caractère.
Seperti seniman masuk sekolah gitu. Tahun lalu kan kita
comme artiste enseigne à l'école l'année dernière, nous étions encore laissés ce programme pour voir l'efficacité du programme, de sorte que le programme est encore limité. Cette année, la portée sera massive. 1500 artistes enseigneront à l'école primaire, secondaire et au lycée, et la musique basée sur l'éducation de caractère. L'année dernière, le programme enseigné à l'école est seulement pour un certain temps. Cette année sera plus longue, peut-être 3 mois. Selon Hilmar Farid, en 2017, l'Indonésie est un pays invité au Festival international Europalia en Belgique depuis 4 mois. La préparation du Festival Europalia est aussi devenue la concentration de la Direction générale de la culture. Il a expliqué que dans les domaines de l'histoire se concentrera sur l'anniversaire des fêtes et impliquant les communautés qui atteignent le grand public. Dans le domaine de la littérature, Hilmar Farid a déclaré « Le ministère a le programme du patrimoine indonésien ». Ce programme vise à créer une liste d'œuvres littéraires qui devraient être lues par les enfants indonésiens. L'Indonésie a beaucoup de littérature pour les enfants, mais jusqu'à présent, il n'existe pas de standard que la littérature devrait être lue. En 2017, l'Indonésie est le pays invité au Festival Europalia qui se tiendra en Belgique. Le festival se tiendra l'octobre 2017 jusqu'à janvier 2018. Le directeur général de la culture du ministère de l'Éducation et de la culture, Hilmar Farid, a déclaré que le Festival Europalia était un moyen potentiel pour la diplomatie culturelle en Indonésie. Lundi, le 16 janvier à Jakarta, Hilmar Farid a expliqué les préparatifs du festival étaient bons et jusqu'à présent, 28 groupes et plus de 400 artistes seront impliqués dans ce festival. Il y a 14 expositions, il y a environ 28 groupes qui seront performants. Chacun de ces groupes peut effectuer un 4 ou 5 places. Il y aura donc des centaines de spectacles et impliqué beaucoup d'environ plus de 400 artistes. Dans le Festival Europalia, il y aura 4 catégories d'expositions à montrer par l'Indonésie. Ils sont le patrimoine culturel de l'Indonésie, les performances des arts contemporains par les artistes indonésiens, la création d'artistes indonésiens et les chances ou l'art collaboratif produit par l'Indonésie et les artistes européens. Ce festival se tiendra à Bruxelles et sera inauguré officiellement par le président indonésien Joko Widodo et le roi de Belgique Philippe I. L'Indonésie sera le premier pays d'Asie du Sud-Est et à être le pays invité du festival Europalia. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien souligne que la tolérance dans la société indonésienne est une chose absolue qui doit être maintenue. Le secrétaire du cabinet, M. Pramono Anung, a déclaré que l'Indonésie était une nation pluraliste qui était pleine de différences. Par conséquent, ce pays doit s'en tenir à l'attitude de tolérance.
Jadi hal yang berkaitan dengan toleransi itu hal yang
tidak. Une chose liée à la tolérance est une chose qui ne peut pas être réfutée parce que notre nation est née multiculture et multiethnique. Donc la question de la tolérance est une question qui est très importante. Selon Pramono Anung, le président Joko Widodo a donné des directives au personnel pour renforcer la tolérance dans ce pays, y compris par la création du Conseil de l'harmonie nationale, le mouvement pour défendre le pays et la consolidation de l'idéologie Pancasila. Le renforcement de la tolérance en Indonésie est une étape à long terme qui doit être fermement ancrée dans la communauté. Le président palestinien Mahmoud Abbas a expressément demandé le soutien de l'Indonésie de fournir des informations sur le mécanisme de suivi et les résultats réels de la conférence Paris le 15 janvier 2017 sur la paix au Moyen-Orient, qui ont été participés par 70 pays. Le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Amman, en Jordanie, reçu par Antara, a déclaré mardi que cette demande avait été présentée par le président Mahmoud Abbas quand il a reçu l'ambassadeur indonésien en Jordanie et aussi en Palestine, Teguh Wardoyo, au bureau présidentiel à Ramallah récemment pour faire ses adieux. L'ambassadeur expliquait qu'à la conférence, l'Indonésie a envoyé le vice-ministre des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir, pour donner le soutien pleinement pour les Palestiniens. Le président Abbas a apprécié le rôle de l'ambassadeur Teguh à soutenir pleinement des Palestiniens. Le président Abbas considère que la Palestine est le deuxième foyer pour les Indonésiens et a transmis que la terre palestinienne appartenait aussi à l'Indonésie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La conférence internationale de Paris sur la Palestine ». Demain, 20 janvier 2017, sera un jour historique pour les États-Unis parce que Donald Trump sera le 45e président. Dans le même temps, les Palestiniens sont très inquiets parce que si Trump reste sur sa promesse, les États-Unis ouvriront son ambassade à Jérusalem. Pour l'Israël, il est devenu l'un des soutiens pour contrôler Jérusalem-Est, qui est revendiqué par les Palestiniens comme une future capitale. Donald Trump a joué dans la question de Jérusalem. L'ouverture d'une ambassade à Jérusalem pour plaire l'Israël et toujours maintenir les ambassades à Tel Aviv pour calmer les pays qui soutiennent les Palestiniens. La France soutient la Palestine comme un État et se précipite pour tenir la conférence internationale sur la Palestine le dimanche 15 janvier, qui est assistée par les délégués de 70 pays, y compris l'Indonésie. Malheureusement, comme la précédente conférence de Paris, l'Israël refuse toujours d'être présent. Selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, la conférence de Paris a accepté sur une carte de la frontière palestinienne en 1967. À cette époque, l'Israël n'a pas encore occupé la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Bien que de nombreux pays ne soient pas présents, cette conférence n'a pas été obligatoire et seulement conseillée aux Palestiniens. Et l'Israël a négocié directement. L'Israël aujourd'hui est comme obtenir le soutien, parce que Donald Trump soutient ouvertement l'Israël. Contrairement à Barack Obama, l'Israël est en colère parce que Obama n'a pas soutenu une expansion des zones dans les territoires palestiniens. Les relations bilatérales américano-israéliennes pendant Obama est le pire. L'Indonésie, qui soutient toujours la Palestine, est restée en possession de la solution à deux États. Lors de la conférence de Paris, le soutien a été prononcé par le ministre adjoint des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir. Les Palestiniens continuent également de demander le soutien de l'Indonésie, notamment à rallier le soutien des pays du Pacifique qui ont tendance à être pro-israélien. Ce sera l'occasion pour l'Indonésie pour prouver le soutien à la Palestine à travers la diplomatie aux pays voisins. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Saksama Longtan, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec The Beatles. En enregistrant plus d'un album parlant en moins de 10 ans de collaboration, les Beatles forment le groupe le plus populaire de l'histoire de la musique. Auteur de succès inoubliables, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr continuent, 30 ans après leur séparation, de susciter la passion, une légende que rien n'arrêtera. Les Beatles apparurent dans les charts du magazine Billboard pour la première fois le 18 janvier 1964. Ce groupe a également été nommé musicien de rock le plus réussi des années 60. Les Beatles sont l'un des groupes de rock plutôt à la fois la plus influente dans l'ère moderne. Les Beatles est considéré comme l'incarnation des idées progressistes influence la révolution socioculturelle de la décennie des années 60. L'autre information est sur la météorite du lac Tagish. La météorite du lac Tagish, couramment dénommée par l'anglicisme météorite Tagish Lake, est tombée le 18 janvier 2000 à 16h43. Heure locale dans le nord-ouest du lac Tagish en Colombie-Britannique au Canada, après son explosion dans la haute atmosphère à une altitude comprise entre 50 et 30 km, avec une énergie estimée à 1,7 km. Le passage de la boule de feu en haute altitude a été repéré par les satellites et les séismographes. Plus de 500 fragments ont été retrouvés sur la surface gelée du lac. Il s'agit de fragments de chondrite carbonée retrouvés essentiellement au niveau du Taku Arm. La météorite du lac Tagish est estimée avoir 4 mètres de diamètre pour un poids de 66 tonnes avant son entrée dans l'atmosphère. Toutefois, 97% de sa masse ont été vaporisés, provoquant des nuages noctulacents visibles. Au nord-ouest d'Edmonton et en Alberta, au coucher du soleil, 12 heures après l'événement. Sur les 1,3 tonnes de roches fragmentées et en atteint la surface de la Terre, 10 kg ont été retrouvés et étudiés. La météorite est composée de chondrite carbonée type C2. Ces morceaux vont du gris sombre au noir, avec de petites inclusions colorées et pèsent en moyenne environ 2,3 kg. Ils ont l'apparence de morceaux de charbon. Ils pourraient s'agir d'un morceau d'astéroïde de type D. Ce type d'astéroïde est différent de ceux de la ceinture d'astéroïdes et semble à ceux aux alentours des géantes gazeuses. Finissons l'histoire du jeu avec l'événement la guerre civile sierra-léonaise. La guerre civile sierra-léonaise se déroule du 23 mars 1991 au 18 janvier 2002 au Sierra Leone en état de l'Afrique de l'Ouest. La guerre civile est déclenchée par un groupe armé se nommant le RUF ou pour Revolutionary United Front avec à sa tête Fode Sankô. Ce groupe est très proche de Charles Taylor et on peut voir la guerre civile de Sierra Leone comme une extension de celle du Libéria. Le 23 mars 1991, le RUF, composé d'une centaine de combattants, attaque le village de l'est du pays. Les troupes gouvernementales de Sierra Leone sont alors envoyées par le général Joseph Momo au pouvoir depuis 1985. Cette guerre civile a fait environ 120 000 morts, plusieurs milliers de personnes ont été mutilées délibérément, notamment par l'amputation des mains pour les empêcher de travailler et surtout de voter. Plus de 2,5 millions de personnes, ou le tiers de la population, ont été déplacées. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie. Avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Cinquième l'antenne, nous continuons notre programme avec la mise au point sur l'environnement et pour le titre, Gorontalo développe le tourisme tourbier. Depuis le développement de la piste des mangroves au mangrove trekking, le long de 300 mètres a été achevé dans la forêt de mangrove au village de Langue, la résidence du nord de Gorontalo en province de Gorontalo. Cette zone touristique a maintenant attiré de nombreux visiteurs. Le mangrove trekking est en trajectoire sous la forme d'une scène en bois située au milieu des forêts de mangroves pour soutenir le secteur du tourisme. Ce potentiel sera utilisé pour augmenter les revenus du village et de la région et il espère de cultiver l'esprit de la société pour améliorer leur bien-être. Chef de la marine et des pêches de capture du département de la mer et des pêches du nord de Gorontalo, Amanda Sungé, samedi a déclaré que des milliers de visiteurs avaient visité ce site touristique qui sera utilisé comme l'une des attractions dans cette région. Selon Amanda, la plupart des visiteurs proviennent de diverses résidences de la province de Gorontalo, bien qu'il n'y ait pas d'installations comme les restaurants à trekking qui est formé circulaire comme le cœur, mais une nouvelle atmosphère ainsi que la beauté de la mangrove et l'endroit marin qui sont intéressants rendent l'augmentation de visiteurs. Même la plupart de ceux y viennent surtout pour prendre des photos seulement. Auparavant, il y avait un pont en bois à cet endroit préparé pour les pêcheurs traditionnels. En plus d'être l'emplacement d'amarrage de bateaux, cette installation est souvent utilisée comme place de séchage de poissons. Mais l'innovation d'être cet emplacement comme destination touristique de mangrove de Gorontalo, selon le préfet de Gorontalo, Indra Yassin, est une idée créative qui pourrait faire l'une des sources de revenus pour prospérer les gens du village. Il espère que le gouvernement du village élabore immédiatement un programme pour le développement de cet objet touristique et impliquant la communauté dans sa gestion pour que le village soit développé et la société soit prospère. Il espère également que cet endroit est devenu l'un des choix de tourisme éducatif populaire dans la province de Gorontalo. En outre, Amanda Sungé a dit, dans un proche avenir, le programme de développement visant à promouvoir le secteur maritime et de la pêche dans la région, y compris la culture de crêpes de Palétuvier, à travers le programme de développement communautaire des zones côtières et Fonds international de développement agricole seront collaborés avec le gouvernement de village à se développer comme une destination touristique de mangrove plus ciblée. Jusqu'à présent, les visiteurs n'ont pas été soumis à un prélèvement ou le frais d'entrée. Mais si la gestion a été remise au gouvernement de village, nous espérons qu'ils peuvent innover à gagner le revenu de village à travers les installations qui avaient été préparées. L'emplacement du tourisme de mangrove dans le village de Langue se trouve à seulement 15 minutes de la zone de Molinka Poto sur la route de Trans-Sulawesi. Chers amis, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir.
Le président indonésien Joko Widodo rappelle son personnel à redoubler d'efforts de la réforme juridique de la première étape, notamment en termes de lutte contre l'extorsion illégale dans les services publics en Indonésie. Il est destiné à améliorer la compétitivité indonésienne face à la concurrence mondiale. Ceci a été déclaré dans l'ouverture d'une réunion à huis clos pour discuter des efforts pour réformer l'application de la loi le mardi au Palais d'État, Jakarta. La réforme juridique doit également être accompagnée d'une réforme systémique et une entrée pour la création de meilleurs services publics. Le président a également confirmé que les efforts de réforme juridique devraient également se concentrer sur la réglementation de la législation. Je voudrais réitérer que les réformes juridiques non seulement touchent le côté aval associé aux services publics, mais aussi en amont, à savoir l'amélioration des aspects réglementaires, l'amélioration des aspects de la procédure Et pour cela, je demande que la disposition de la réglementation ait aussi une priorité dans la loi de réforme cette fois. Le président Joko Widodo a aussi déclaré que la structuration de la législation doit être faite si on trouve une législation sur vos chemins. Il est destiné à accélérer le processus de service et améliorer la compétitivité de l'Indonésie face à la concurrence mondiale. Il a également rappelé à son personnel de se concentrer sur le développement en 2017 pour éliminer l'inégalité sociale et l'inégalité de la justice dans la communauté. En 2017, la Direction générale de la culture du ministère de l'Éducation et de la culture mettra l'accent sur le développement de l'art. Le directeur général de la culture, Hilmar Farid, a déclaré en plus des programmes réguliers, comme la préservation du patrimoine culturel, qui est différente en 2017 et dans le domaine de l'art. Lundi, le 16 janvier à Jakarta, Hilmar Farid a expliqué dans le domaine de l'art, le ministère se concentrera à impliquer l'unité éducative dans le programme de la Direction générale de la culture. Le programme des arts couvre un programme de Seniman Masuk Sekolah où des artistes enseignent à l'école et de la musique basée sur l'éducation du caractère.
Seperti Seniman Masuk Sekolah gitu. Tahun lalu kan kita
comme artiste enseigne à l'école l'année dernière, nous étions encore laissés ce programme pour voir l'efficacité du programme, de sorte que le programme est encore limité. Cette année, la portée sera massive. 1500 artistes enseigneront à l'école primaire, secondaire et au lycée, et la musique basée sur l'éducation du caractère. L'année dernière, le programme enseigné à l'école est seulement pour un certain temps. Cette année sera plus longue, peut-être 3 mois. Selon Hilmar Farid, en 2017, l'Indonésie est un pays invité au Festival international Europalia en Belgique depuis 4 mois. La préparation du Festival Europalia est aussi devenue la concentration de la Direction générale de la culture. Il a expliqué que dans les domaines de l'histoire se concentrera sur l'anniversaire des fêtes et impliquant les communautés qui atteignent le grand public. Dans le domaine de la littérature, Hilmar Farid a déclaré « Le ministère a le programme du patrimoine indonésien ». Ce programme vise à créer une liste d'œuvres littéraires qui devraient être lues par les enfants indonésiens. L'Indonésie a beaucoup de littérature pour les enfants, mais jusqu'à présent, il n'existe pas de standard que la littérature devrait être lue. En 2017, l'Indonésie est le pays invité au Festival Europalia qui se tiendra en Belgique. Le festival se tiendra l'octobre 2017 jusqu'à janvier 2018. Le directeur général de la culture du ministère de l'Éducation et de la culture, Hilmar Farid, a déclaré que le Festival Europalia était un moyen potentiel pour la diplomatie culturelle en Indonésie. Lundi, le 16 janvier à Jakarta, Hilmar Farid a expliqué que les préparatifs du festival étaient bons et jusqu'à présent, 28 groupes et plus de 400 artistes seront impliqués dans ce festival. Il y a 14 expositions, il y a environ 28 groupes qui seront performants. Chacun de ces groupes peut effectuer en 4 ou 5 places. Il y aura donc des centaines de spectacles et impliquer beaucoup d'environ plus de 400 artistes. Dans le Festival Europalia, il y aura 4 catégories d'expositions à montrer par l'Indonésie. Ils sont le patrimoine culturel de l'Indonésie, les performances des arts contemporains par les artistes indonésiens, la création d'artistes indonésiens et l'échange ou l'art collaboratif produit par l'Indonésie et les artistes européens. Ce festival se tiendra à Bruxelles et sera inauguré officiellement par le président indonésien Joko Widodo et le roi de Belgique Philippe I. l'Indonésie sera le premier pays d'Asie du Sud-Est et à être le pays invité du festival Europalia. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien souligne que la tolérance dans la société indonésienne est une chose absolue qui doit être maintenue. Le secrétaire du cabinet, M. Pramono Anung, a déclaré que l'Indonésie était une nation pluraliste qui était pleine de différences. Par conséquent, ce pays doit s'en tenir à l'attitude de tolérance.
Jadi hal yang berkaitan dengan toleransi itu hal yang
une chose liée à la tolérance est une chose qui ne peut pas être réfutée parce que notre nation est née multiculturelle et multiethnique. Donc la question de la tolérance est une question qui est très importante. Selon Pramono Anung, le président Joko Widodo a donné des directives au personnel pour renforcer la tolérance dans ce pays, y compris par la création du Conseil de l'harmonie nationale, le mouvement pour défendre le pays et la consolidation de l'idéologie Pancasila. Le renforcement de la tolérance en Indonésie est une étape à long terme qui doit être fermement ancrée dans la communauté. Le président palestinien Mahmoud Abbas a expressément demandé le soutien de l'Indonésie de fournir des informations sur le mécanisme de suivi et les résultats réels de la conférence Paris le 15 janvier 2017 sur la paix au Moyen-Orient, qui ont été participés par 70 pays. Le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Amman en Jordanie, reçu par Antara, a déclaré mardi que cette demande avait été présentée par le président Mahmoud Abbas quand il a reçu l'ambassadeur indonésien en Jordanie et aussi en Palestine, Teguh Wardoyo, au bureau présidentiel à Ramallah récemment pour faire ses adieux. L'ambassadeur expliquait qu'à la conférence, l'Indonésie a envoyé le vice-ministre des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir, pour donner le soutien pleinement pour les Palestiniens. Le président Abbas a apprécié le rôle de l'ambassadeur Teguh à soutenir pleinement des Palestiniens. Le président Abbas considère que la Palestine est le deuxième foyer pour les Indonésiens et en transmis que la terre palestinienne appartenait aussi à l'Indonésie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs et chers auditeurs, bonsoir. Nous vous retrouvons encore dans la rubrique Le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à Yogyakarta. Donc, restez toujours avec nous, La Voix d'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez également écouter notre émission sur www.vo.co.id. Chers auditeurs, Gunung Kidul est l'une des résidences à Yogyakarta. On considère cette région comme le plus bel endroit touristique à ne pas manquer lors d'une visite à Yogyakarta pour sa beauté naturelle. Non seulement les plages, il existe aussi des grottes et cascades. En parlant d'une cascade, l'une que vous devriez visiter s'appelle la cascade Banyunibo. Chers auditeurs, la cascade de Banyunibo est située au hameau de Batur, le village Putat, le district Patuk, la résidence de Gunung Kidul. Pour atteindre cette cascade, vous prendrez environ 10 heures de voyage. Elle se trouve à la proximité d'un volcan Purbang Langgeran. Du centre-ville de Yogyakarta, vous voyagez vers Wonosari jusqu'à ce que vous trouverez la poste de police de Patuk. Une fois là-bas, Vous verrez un panneau qui vous guide vers un lieu touristique de Nglangeran. Après cela, vous passerez des routes sinueuses. La cascade se trouve 2 km après Nglangeran. En arrivant à l'emplacement autour de la cascade, vous trouverez une grande zone de parking autour de la cascade. Après que vous garez votre véhicule, vous devriez marcher pour environ 400 mètres avant d'atteindre la cascade directement. Le prix d'entrée pour cet endroit touristique est 3000 roupias par personne et 2000 roupias par véhicule pour le prix de parking. Serge Luther, de loin, la cascade de Banyunibo n'est pas clairement visible car il a été bloqué par des gros rochers. Selon les résidents locaux, de gros rochers sont une falaise de la cascade Banyunibo qui se sont effondrés dans le séisme en 2006. En arrivant près de cascade, vous serez étonné par la beauté de Banyunibo. Cette cascade est de 35 mètres de haut. Pendant la saison des pluies, la cascade a un écoulement d'eau assez grand. Parmi les collines, cette cascade est si belle. La combinaison du panorama vert des collines et des rizières. Chers auditeurs, Banyunibo est dérivé de la langue javanaise Banyu qui signifie l'eau et Nibo qui signifie la chute. Donc Banyunibo signifie exactement la chute d'eau. Cette cascade vous offre de l'eau claire et fraîche où vous pouvez vous y amuser. C'est parce que cet endroit est encore si naturel, donc il n'y a pas encore beaucoup de visiteurs qui y visitent. Et par conséquent, il n'y existe pas encore de kiosques d'alimentation. Il vaut mieux que vous apportez vos repas vous-même. Mais il existe déjà des salles de bain et des zones de parking. En y visitant, les touristes peuvent aussi profiter de repas typiques que l'on appelle ayam ingkung, un genre de poulet frit au hameau de Kampung Mas Plumbungan. Des artisanats en bois et des artisanats de Max au village Bobung et des collations des bananes produites par les résidents de Kepil au village Putat. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre La cascade de Banyunibo. Nous allons vous retrouver demain avec notre sujet aussi intéressant. Merci beaucoup de votre fidélité et rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Chers auditeurs et auditrices, où que vous soyez, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est emprunté un livre d'histoire. Restez avec nous dans l'émission de Radio République Indonésia, La Voix de l'Indonésie. Comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer lentement 2 fois et vous le répétez après moi. Beaucoup sejarah. Beaucoup sejarah. En français, le livre d'histoire. Membawa. Membawa. En français, apporter. Pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah. En français, le cours d'histoire. Pinjam. Pinjam. En français, emprunter. Jam keberapa. Jam keberapa. En français, quelle séance? Jam kelima. Jam kelima. En français, cinquième séance. Istirahat. Istirahat. En français, la création. Kalau kamu? Kalau kamu, en français, et toi? Jam pertama, en français, première séance. Kalau begitu, en français, donc, terima kasih, en français, merci. Eh bien, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation entre Nani, A, et Lani, B. A, Lani, apa kamu membawa buku sejarah? Lani, apa kamu membawa buku sejarah? En français, Lani, est-ce que tu apportes ton livre d'histoire? B. Membawa. B. Membawa. En français, oui, je l'apporte. A. Apa boleh aku pinjam? Karena aku ada pelajaran sejarah. Apa boleh aku pinjam? Karena aku ada pelajaran sejarah. En français, pourrais-je l'emprunter? J'ai cours d'histoire. B. Boleh. Jam keberapa? Boleh. Jam keberapa? En français. Bien sûr. Quelle séance? A. Jam kelima. Sehabis istirahat. Kalau kamu? Jam kelima. Sehabis istirahat. Kalau kamu? Cinquième séance, après la récréation. Et toi? B. Aku sudah jam pertama. Aku sudah jam pertama. En français, la première séance. A. Kalau begitu, aku boleh pinjam ya? Kalau begitu, aku boleh pinjam ya? En français, donc, si je l'emprunte, B. Boleh, mari ke kelasku. Boleh, mari ke kelasku. En français, oui, allons-y. A. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Chers amis, nous arrivons à la fin de Apprendre l'Indonésien de cet épisode. Espérons que cette édition soit utile pour vous et nous vous reverrons la semaine prochaine avec un sujet différent et intéressant. Au revoir.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de Pelangi Nada, au magazine de musique de la voix de l'Indonésie, édition de mercredi. Comme chaque mercredi, on vous introduit les chansons indonésiennes. Et pour ce soir, avec la chanteuse pop Yuni Sara. Chers amis, pour l'ouverture de notre rencontre, écoutez d'abord la chanson intitulée « Mengapa tiada maaf » chantée par Yuni Sara. Bonne écoute.
Menunggu, misalkan
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson « Mengapa Tiada Maaf » chantée par Yuni Sara. Cette chanson est une des chansons qui prend le nom de Yuni Sara plus populaire en Indonésie. Cette chanson raconte l'expression de quelqu'un qui n'a pas le pardon par son amant. Elle est une ancienne chanson qui a été popularisée par Bob Tutupoli aux années 70. Mais Yuni Sara rechante aux années 90. Chers amis, vous savez, la plupart des chansons de Yuni Sara, surtout dans ses albums, sont des anciennes chansons. Mais grâce à la douce voix, Yunisara devient plus être populaire, non seulement son nom, mais aussi les chansons elles-mêmes. Bon, chers amis, avant de continuer notre rencontre, allez encore écouter la chanson suivante de Yunisara, intitulée « Décembre » ou « Décembre ». Bonne écoute. Chers amis, vous écoutez toujours le magazine de musique de la voix de l'Indonésie, édition de mercredi avec la chanteuse Yuni Sara. Tout à l'heure, vous venez d'écouter la chanson « Décembre ». Cette chanson a été inspirée par les mauvaises histoires au mois de décembre, dont le souvenir qui brise le cœur. Yuni Sara est la grande sœur de Krisdayanti. Krisdayanti est une des divas de musique pop en Indonésie. Yuni Sara prend le type de chanter avec le rythme lentement ou un peu mélancolique. Elle est douée de chanter des chansons mélancoliques avec d'une façon belle et merveilleuse. Vous savez, sa famille aime l'art, donc tout lui apporte la bonne chance de mettre en carrière dans le monde de musique. Chers amis, c'était l'histoire de belle chanteuse Yuni Sara. Et avant de vous quitter, écoutez d'abord la dernière chanson de Yuni Sara, intitulée « Surat Undangan ». Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.